Il était une fois.
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 La femme qui sauva son frère. L'histoire du jour nous vient de ce temps où Amérindiens et colons se faisaient la guerre. Il y a de cela presque 100 ans, pendant l'été 1875, furent livrées les deux plus grandes batailles entre les soldats colons et les Indiens dans les plaines du Montana. La première fut appelée la bataille du Bouton de Rose, Rosebud, et la seconde, qui eut lieu une semaine plus tard, reçut le nom de Little Big Horn. Le général Custer y fut défait et tué. Les Cheyennes appellent la bataille de Rosebud le combat où la fille sauva son frère. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Mais il faut d'abord que je vous explique ce qu'un Indien veut dire quand il dit « j'ai marqué un coup ». Marquer un coup, c'est remporter les honneurs de la guerre. Les Indiens estiment qu'il est facile de tuer un ennemi en lui tendant une embuscade. Cela ne rapporte pas d'honneur, ce n'est pas marquer un coup. Mais bondir sur l'ennemi. Marcher sur lui alors qu'il est encore bien vivant, armé et dangereux. Le frapper de son bâton ou même le toucher de sa main, ça, c'est marquer un coup. Cela vous rapporte de l'honneur et vous donne des plumes d'aigle. Ou alors voler des chevaux en un raid plein d'audace, c'est aussi un coup qui marque. Mais l'un des plus grands honneurs que vous puissiez gagner est de plonger au cœur de la bataille avec votre cheval pour sauver un ami, cerné de toutes parts, sans cheval, sans armes, le prendre avec vous et partir au galop, sauvant ainsi sa vie en risquant la vôtre. Cela, c'est un coup qui marque, oui, un grand coup. Ainsi donc, il y a une centaine d'années, les Blancs voulaient que les Indiens aillent dans des prisons qu'ils appelaient réserves et qu'ils abandonnent leur liberté d'aller partout, de chasser le bison, qu'ils cessent d'être des Indiens. Quelques-uns abandonnèrent lâchement et allèrent vivre derrière les barbelés, mais d'autres ne le firent pas. Ceux qui allèrent dans les réserves pour y vivre comme des Blancs reçurent le nom d'amicaux. Ceux qui ne voulurent pas furent appelés hostiles. À vrai dire, ils n'étaient pas hostiles, ils ne voulaient pas se battre. Tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'on les laisse tranquillement vivre à l'indienne, ce qui était une bonne façon de vivre. Mais les soldats blancs ne les laissèrent pas faire. Ils résolurent de les encercler et d'arrêter tous les hostiles en tuant ceux qui résisteraient et de conduire les autres, prisonniers, derrière les barbelés. Trois colonnes de soldats vinrent donc occuper la dernière bande de terre laissée aux hommes rouges. À leur tête marchaient les généraux Crook, Custer et Terry. Crook avait la plus forte troupe, près de 2000 soldats. Il avait aussi des canons et des éclaireurs indiens pour le guider. À Rosebud, il se heurta aux Sioux unis et aux guerriers Cheyennes. Les Indiens avaient exécuté leur danse sacrée du soleil. Le grand chef Sioux, Torohasi, avait même eu l'honneur d'une vision qui lui annonçait que les soldats blancs seraient vaincus. Les guerriers avaient un moral à toute épreuve. Quelques hommes, qui faisaient partie des célèbres sociétés de guerriers, avaient juré qu'ils combattraient jusqu'à la mort, les chants funèbres à la bouche, jetant leur vie en avant. C'est ainsi qu'ils disaient. Alors, ils s'étaient peints pour la guerre. Ils avaient revêtu leurs plus beaux atours pour que leurs ennemis puissent dire si jamais ils étaient tués, ce devait être un grand guerrier ou un grand chef. Voyez comme il repose noblement. Les vieux chefs enseignaient aux jeunes hommes ce qu'il leur fallait faire. Les sorciers, pendant ce temps, préparaient leurs potions pour les combattants, mettant de la poudre de serpent sur leurs cheveux, peignant leurs chevaux de dessins étranges. Ils faisaient cela pour les rendre invisibles à leurs ennemis et les protéger de leurs balles. Renard courageux avait la médecine qu'on admirait le plus. Il portait un faucon tendu qu'il s'attachait derrière la tête. Lorsqu'il s'élançait dans la bataille, il soufflait dans son sifflet d'os d'aigle et à peine le combat commençait, le faucon s'animait et sifflait lui aussi. Il y avait là un grand nombre de fières tribus. Outre les Cheyennes, on trouvait les Umpapa, les Minikonju, les Oglala, les Cuisses Brûlées, les Deux Chaudrons, et beaucoup de chefs aussi et de braves guerriers, Deux Lunes, Taureaux Blancs, Mocassins Sales, Petits Faucons, Aigles Jaunes, Hommes Blancs Boiteux. Et parmi les Sioux venaient le Grand Cheval Fou et Taureau Assis, leur plus grand guerrier, faible encore des offrandes qu'il avait faites de sa chair pendant la danse du soleil. Il y avait aussi le farouche Pluie dans les yeux. On ne peut tous les compter, mais ils étaient beaux à voir. Ceux qui avaient gagné le droit de porter les bonnets de guerre chantaient très fort, les levant très haut. À trois reprises, ils arrêtèrent leur chant, et la quatrième fois, ils mirent leurs bonnets sur la tête, et les flammes flottaient et volaient derrière eux. Que cela devait donc être beau à voir. Que n'aurais-je pas donné pour m'y trouver? Cheval Fou des Oglala lança son fameux cri de guerre. Un grand jour pour mourir, un grand jour pour combattre. Les lâches, derrière, les cœurs braves, suivez-moi. Et le combat commença. D'innombrables prouesses furent réalisées, d'innombrables coups furent marqués. La bataille allait et venait. Plus que tout autre, c'était le combat des Cheyennes, c'était leur jour. Et parmi eux se trouvait une vaillante jeune femme, la femme du Sentier des Veaux. Elle allait fièrement aux côtés de son époux, Coyote Noir. Au cœur de la bataille, elle aperçut un jeune guerrier entouré d'hommes blancs. Celui-ci était blessé et semblait fatigué. Elle s'aperçut que c'était son frère. Son cheval était tombé sous lui et il était encerclé. Les soldats pointaient leurs fusils, les éclaireurs Crow l'entouraient, attendant l'occasion de marquer sans peine des coups faciles sur lui. Mais il leur faisait face, bravement, avec entêtement et courage. La femme du Sentier des Veaux lança alors un cri de guerre perçant, très haut perché. Elle poussa son petit cheval au plus haut du combat, au cœur même de l'ennemi. Et elle lança ce cri des femmes indiennes qui encouragent leur homme au combat, celui qui fait frissonner, fondre et frémir. La femme du Sentier des Veaux riait de joie dans l'excitation du combat. Elle chantait sans arrêt. Alors, les soldats blancs firent feu sur elle. Et les éclaireurs crocs décochèrent leurs flèches sur son cheval. Mais elle allait si vite qu'elle ne pouvait être touchée. Les Sioux et les Cheyennes virent ce qui se passait. Et alors, les soldats blancs le virent aussi. Ils cessèrent tous le combat et restèrent à regarder cette courageuse jeune femme qui sauvait la vie de son frère. Tous les guerriers levèrent les bras et poussèrent en chœur un épouvantable cri de guerre qui faisait dresser les cheveux sur la tête. Il y eut même des soldats blancs qui lancèrent leurs casquettes en l'air et crièrent « Hurrah ! Hurrah ! » en l'honneur de la femme du Sentier des Veaux. À dire vrai, la bataille commençait à peine. Peu d'hommes avaient été tués de chaque côté, mais le général blanc observa cette femme et il se dit « Mais si les femmes combattent ainsi, que seront donc leurs guerriers ? même si je remporte la victoire, j'y perdrai la moitié de mes hommes. » Si bien que ce général blanc recula d'une bonne centaine de miles. Il aurait dû rejoindre Custer, le vieux cheveu jaune. Mais lorsque Custer dut faire face aux mêmes Cheyenne et Sioux une semaine plus tard, le général Crook était bien loin et l'armée de Custer fut balayée. C'est ainsi que la femme du Sentier des Veaux contribua aussi d'une certaine façon à la victoire dans cette bataille-là. Beaucoup de ceux qui avaient vu ce qu'elle avait fait pensèrent que c'était elle qui avait marqué le plus grand coup sans perdre la vie, juste en la donnant. C'est pour cette raison que les Indiens appellent la bataille de Rosebud le combat où la femme sauva son frère. L'endroit où la femme du Sentier des Veaux marqua son coup a depuis longtemps été retourné en tous sens. Un ranch le recouvre aujourd'hui. Mais le souvenir de son exploit, lui, dure toujours. Et il vivra tant qu'il y aura des Indiens sur ces terres. Ceci n'est pas un conte de fées. Non, c'est une légende.